France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Donald Trump reprend les commandes. L'ancien et nouveau président des États-Unis prête serment. Nous irons à Washington dans un instant. Nous parlerons aussi de la toute dernière initiative de Joe Biden qui, juste avant de quitter la Maison-Blanche, a accordé des grâces préventives à des élus et fonctionnaires que son successeur pourrait vouloir poursuivre. Et nous écouterons l'avertissement de François Bayrou. Le Premier ministre appelle au ressaisissement face à la politique incroyablement dominatrice, selon lui, des États-Unis. L'application du cessez-le-feu permet l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Dans quelles conditions peut-elle être distribuée? Nous ferons le point avec Sébastien Logini. Et puis en France, les députés examinent le projet de loi d'urgence pour Mayotte. Pour reconstruire vite, il prévoit des exceptions au code de l'urbanisme, de l'environnement et de la commande publique. Explication à venir de Célia Goetti. Make America Great Again, rendons sa grandeur à l'Amérique. Le slogan popularisé par Donald Trump lors de sa campagne de 2016 est de nouveau d'actualité, l'esprit de revanche en plus. Le président élu a promis d'agir à une vitesse et avec une force sans précédent pour mettre fin à ce qu'il considère comme le déclin de l'Amérique. La cérémonie d'investiture a maintenant commencé et nous vous retrouvons à Washington. Sandrine Etoua-Andek, bonsoir.
Bonsoir.
Ou plutôt bonjour, hein. Il est midi une à Washington. C'est parmi les supporters de Donald Trump que vous suivez cette cérémonie, Sandrine, cette cérémonie d'investiture du 47e président des États-Unis. Vous êtes sur le National Mall face au Capitole. Quelle est l'ambiance?
Bah vous l'entendez derrière moi, hein, les clameurs de ces centaines de supporters de Donald Trump qui réagissent puisqu'ils suivent en fait cette cérémonie face au Capitole, derrière des barrières noires, mais ils n'en perdent pas une miette sur leur téléphone portable minute par minute. Ils suivent toutes les étapes de cette inauguration, tous ces moments très solennels. Et les clameurs ont commencé au moment où le vice-président J.D. Vance a prêté serment. On a vu ses visages s'illuminer aussi en voyant cette transition apaisée. Hein, c'est ce que me disait une des supporters. D'un côté, Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris pour encore quelques minutes. Et de l'autre côté, celui qui s'apprête à être le 47e président des États-Unis. Ils ont tenu, ces supporters, à venir quand même sur ce National Mall, ce parc immense, ce parc ouvert où on trouve beaucoup d'institutions, de musées de l'histoire américaine. Le Capitole en face de moi, je vous le disais, la Maison Blanche derrière, l'obélisque qui rend hommage à George Washington, le premier président des États-Unis, parce que normalement ils auraient dû être 250 000, mais ils ont tenu quand même à vivre ce moment historique, certes sur le téléphone portable, mais à le vivre ici, ensemble. On voit tous ces bonnets rouges, Make America Great Again, la plupart des gens ici sont en mitouflé, froid polaire effectivement sur Washington, mais en tout cas, l'envie de célébrer ce moment, d'en faire une joie, d'en faire une fête. On voit des personnes déguisées, on a vu un personnage de Marvel déguisé en Captain America, une chorale tout à l'heure de jeunes enfants venus de Los Angeles qui ont chanté l'hymne américain. Tous espèrent pouvoir voir du changement dans leur vie très quotidienne, la vie de tous les jours pour ces quatre prochaines années. Et donc ils restent branchés pour entendre les remarks, hein, le discours de Donald Trump. La cérémonie a pris un petit peu de retard. Ça va être l'un des taux forts de cette inauguration, ce discours de Donald Trump qui va donner le ton de sa politique pour les quatre prochaines années.
Sandrine Etoua-Andek, merci. Vous êtes en direct de Washington avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Avant Donald Trump, le premier à prêter serment, comme à l'accoutumée, c'était le vice-président J.D. Vance. Il a juré sur la Bible devant le très controversé juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh, nommé par Donald Trump lors de son premier mandat. Bonsoir Valérie Cantier.
Bonsoir.
J.D. Vance devient le troisième plus jeune vice-président de l'histoire des États-Unis.
Oui, et je vous propose de remonter un petit peu en arrière. Il y a quelques mois, J.D. Vance a marqué les esprits lors du débat des potentiels vice-présidents à l'époque, pendant la campagne 2024 donc. Opposé au démocrate Tim Walz, il est apparu posé avec une pensée construite, mais il n'a pas toujours dit la vérité lors de ce débat et la journaliste a dû faire faire du fact-checking en direct à plusieurs reprises, notamment sur les migrants haïtiens de Springfield dans l'Ohio qui mangeaient selon lui les chiens et les chats des habitants. Et à la toute première question qui portait sur l'Iran, J.D. Vance avait préféré parler de son parcours à lui.
Je suis issu d'une famille d'ouvriers, ma mère a eu besoin de l'aide alimentaire et ma grand-mère des allocations familiales pour m'élever. Et elle m'a élevé parce que ma mère s'est battue contre la drogue une bonne partie de mon enfance. Je suis allé à l'université grâce à l'armée, après avoir été dans la marine et être allé en Irak.
Son enfance difficile, il la raconte dans un roman à succès en 2016, un hommage à l'Amérique blanche ouvrière dont il est issu. Cet ouvrage explique la genèse du vote des ouvriers déclassés vers la droite radicale américaine. Échappant au déterminisme social, J.D. Vance sort diplômé de la prestigieuse université de droit de Yale. Il est aujourd'hui sénateur de l'Ohio et investisseur en capital risque dans la Silicon Valley, où il a beaucoup d'influence et un sérieux carnet d'adresses. Dans son discours de victoire le 5 novembre dernier, Donald Trump a dit de lui « Finalement, c'est un bon choix. Au début, j'ai été critiqué, mais je savais qu'il avait le cerveau nécessaire pour ce poste. »
Donald Trump a donc juré de protéger la Constitution sous la coupole du Capitole, à l'endroit même où certains de ses partisans avaient tenté d'empêcher le Congrès de certifier la victoire du démocrate Joe Biden le 6 janvier 2021. Au cours de son second mandat, Donald Trump veut combattre l'immigration. Aucun mot n'était trop fort dans ses discours de campagne. On verra ce qu'il en sera dans les actes. Donald Trump affirme qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes, et il compte limiter les droits des personnes LGBT. Sur le plan économique, le républicain veut réduire les impôts et le déficit public, augmenter la croissance et la production de pétrole. Il précisera ses intentions dans son discours. Nous y reviendrons à 19h. Pendant la campagne, Donald Trump avait notamment annoncé son intention de remplacer Gary Gensler, le président de l'autorité de régulation des marchés financiers, le jugeant trop sévère avec les crypto-monnaies. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Gary Gensler démissionne aujourd'hui même et devrait être remplacé par son exact opposé, Marie. Paul Atkins est un partisan affiché de ce secteur et de sa non-régulation.
Oui, nommé par Joe Biden en 2021, Gary Gensler aurait pu rester à la tête de la SEC, le gendarme des marchés financiers américains, jusqu'en 2026, mais il a préféré se retirer de lui-même. Sous son mandat, la SEC a intenté plus de 100 actions coercitives contre des acteurs de l'industrie crypto, FTX, Coinbase, Binance, une industrie selon lui pleine de mauvais acteurs. L'un des mandats de la SEC étant de réguler la finance pour protéger les investissements des Américains, qu'ils soient professionnels ou amateurs, Gary Gensler avait pour projet de soumettre ce secteur à des règles proches de celles qui régissent la finance traditionnelle. Un projet totalement incompatible avec Donald Trump, dont la campagne fut massivement financée par des entreprises des crypto-monnaies. Alors Paul Atkins, qui va le remplacer, est un républicain. Il a la particularité d'avoir déjà siégé à la SEC dans les années Bush fils. Et dernièrement, il prodiguait ses conseils à la Digital Chamber, un organisme qui fait la promotion de la blockchain, la technologie des crypto-monnaies. Son arrivée à la SEC est donc du pain béni pour ce secteur, mais aussi pour Elon Musk, contre qui la SEC a plusieurs dossiers en cours. Le plus solide concerne son rachat de Twitter. Légalement, Elon Musk aurait dû informer les actionnaires de Twitter quand il avait atteint les 5% du capital du réseau social, mais il l'a fait 11 jours plus tard quand il en avait déjà 9%, ce qui lui a permis de minimiser le coût de son acquisition. On verra ce que devient cette affaire. Ce sera d'ailleurs un test majeur de l'indépendance future de la SEC vis-à-vis de la Maison Blanche.
Marie Viennot, si la passation de pouvoir se passe de façon cordiale en apparence, il est à noter que quelques heures avant l'investiture de Donald Trump, Joe Biden a accordé une série de grâces préventives à des élus ou des fonctionnaires. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Aurélie.
Pour le démocrate, il s'agissait de les protéger de poursuites judiciaires injustifiées et politiquement motivées une fois Donald Trump au pouvoir. Expliquez-nous.
Alors à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, c'est en ces termes que Joe Biden justifie ses grâces préventives. Objectif, vous l'avez dit, mettre à l'abri de la vengeance de Donald Trump ceux qui ont eu le tort de s'opposer à lui. Alors, de qui parle-t-on ? D'abord de 5 membres de la famille de Joe Biden. Décision prise ces toutes dernières minutes. Famille cible d'attaques et de menaces incessantes, écrit celui qui, à cette heure, n'est plus plus président américain. 5 membres de sa famille, donc, dont son frère James Biden. On parle aussi du docteur Anthony Fauci, architecte de la lutte contre le Covid, au nid de la droite et des complotistes, mais aussi de la républicaine Liz Cheney, ex-élue au Congrès, devenue porte-voix des anti-Trump et soutien de Kamala Harris. On parle enfin du général Mark Milley, chef d'état-major des armées pendant le premier mandat de Trump, qu'il avait qualifié de fasciste et de personne la plus dangereuse pour ce pays. Aux États-Unis, le pouvoir de grâce présidentielle est absolu, mais cette utilisation très extensive fait débat, y compris dans le camp de Joe Biden. Il n'existe qu'un précédent, 1974, Richard Nixon, gracié par son successeur Gerald Ford suite au scandale du Watergate. Donald Trump a lui-même été tenté d'y recourir après sa défaite en 2020, pour certains membres de sa famille et pour lui-même. Et c'est précisément ce que redoutent certains, que Joe Biden ouvre la voie à Donald Trump, tout en faisant peser le soupçon d'une instrumentalisation de la justice qui vienne miner un peu plus la confiance des Américains dans leurs institutions.
Merci Louise Baudet. Le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis oblige les Français et les Européens à se ressaisir. C'est le message de François Bayrou. Le Premier ministre s'est exprimé depuis sa ville de Pau où il présentait ses vœux. On l'écoute.
Les États-Unis ont décidé d'une politique qui est une politique incroyablement dominatrice par le dollar, par la politique industrielle, par la captation de toute la recherche du monde et par la captation des investissements du monde. Et si nous, nous ne faisons rien, eh bien notre destin est très simple, nous allons être dominés, nous allons être écrasés, nous allons être marginalisés. Et c'est une décision qui ne tient qu'à nous, les Français et les Européens. Parce qu'évidemment, sans Europe, c'est impossible de le faire. Et ce ressaisissement-là, c'est bien la question qui se pose dans les jours que nous vivons en France. Ça a une deuxième signification, c'est que nous ne pouvons nous ressaisir que si nous nous réunissons. Si toutes les sensibilités compatibles acceptent de travailler ensemble.
François Bayrou et déclaration il y a juste quelques minutes de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'Union européenne espère une collaboration étroite avec Donald Trump sur les défis mondiaux. Et c'est ce jour d'investiture de Donald Trump que le journal Le Monde a choisi pour geler son compte sur le réseau social X, propriété d'Elon Musk, proche soutien du président américain. Le Monde ne partagera plus ses contenus avec ses plus de 11 millions d'abonnés, car le journal veut, je cite le titre de son éditorial, se battre sur le terrain des faits. Un édito signé par le directeur Jérôme Fenoglio, joint par Éric Chavroux.
Ce n'est pas un départ, nous ne quittons pas X au sens où nous ne fermons pas notre compte. Nous avons décidé, au vu de la manière dont évoluait X ces derniers temps, que nous ne souhaitions plus pour l'instant y publier nos contenus. Peut-être qu'un jour, il ne servira plus simplement de porte-voix des opinions d'Elon Musk, alors peut-être dans ce cas-là, nous pourrons republier.
C'est une décision réfléchie de longue date?
Ça fait un moment qu'on en parle. Alors déjà, ça fait plusieurs années, et même avant l'arrivée d'Elon Musk, qu'on est perplexe sur l'évolution de ce qu'était Twitter. On a bien vu qu'il y avait des phénomènes qui, petit à petit, avaient contribué à réduire totalement la capacité à débattre. Alors depuis qu'Elon Musk l'a racheté, on a petit à petit constaté qu'il prenait des décisions qui étaient sans cesse plus contraires à ce que sont les médias traditionnels qu'il déteste. Il n'en fait même pas mystère. Ces dernières années, la manière dont on était interpellé sur X montrait très bien que, en fait, on était face à des gens qui ne nous lisent pas, qui nous détestent, qui n'ont absolument aucune envie d'être convaincus par ce que l'on dit, qui sont plutôt là pour prendre position contre nous et exhiber souvent leur violence, leur haine. Donc, franchement, il n'y a vraiment plus aucun doute. La machine qui se met en place autour de Donald Trump et d'Elon Musk est aussi une machine qui nous nie en tant que journalistes, qui nie l'utilité que nous pouvons représenter par rapport à des démocraties qu'il faut défendre en essayant d'établir au moins un certain nombre de faits communs.
La trêve entre Israël et le Hamas a permis l'échange de 3 otages israéliennes contre 90 prisonniers palestiniens. C'est aussi un profond soulagement pour les civils de la bande de Gaza. Et après des mois de blocage par les autorités israéliennes, les convois d'aide humanitaire peuvent à nouveau pénétrer dans l'enclave. 630 camions sont entrés au premier jour du cessez-le-feu et l'équivalent devrait encore arriver aujourd'hui, Sébastien Logeni.
De l'eau, de la nourriture, du carburant, voilà pour l'essentiel ce qui entre dans Gaza depuis hier. L'ambition de l'ONU, c'est de pouvoir nourrir 1 million de personnes rapidement, avec l'espoir aussi que les prix des denrées chutent. Et c'est le cas. La farine, par exemple, avait atteint les 400 euros le kilo. Elle coûte aujourd'hui 10 euros, 40 fois moins. Même chose pour les cigarettes, passées de 20 euros la cigarette à 1 euro. L'autre urgence, c'est l'aide médicale. Hier, Médecins sans frontières a pu faire passer 15 camions, 3 fois ce que l'ONG faisait passer en un mois avant la trêve, mais seulement des médicaments. Amande Bazerolle est coordinatrice d'urgence pour MSF et elle est présente sur place à Gaza.
Les choses que l'on fait rentrer ne sont pas différentes, mais par contre, ça va beaucoup plus vite. Alors nous, on fait de rentrer tous nos médicaments, tout ce qui est les consommables pour l'hôpital, mais il y a plus de 110 000 blessés aujourd'hui qui nécessitent encore des soins opératoires et qui vont aussi nécessiter des prothèses, et tous ces matériaux aujourd'hui ne peuvent pas rentrer dans Gaza. Donc aujourd'hui, nous sommes en attente de validation pour des tables opératoires, pour donc des machines de stérilisation du matériel chirurgical, des scalpels, des ciseaux.
Et tout ce matériel reste pour le moment interdit. Pas de prothèses, pas de béquilles, pas de fauteuils roulants non plus. Les autorités israéliennes considèrent que ces équipements pourraient être utilisés par le Hamas.
Sébastien Logeny. En France, l'Assemblée nationale débat du plan d'urgence pour Mayotte. Comme il avait été fait pour Notre-Dame auparavant, les députés votent une loi pour accélérer la reconstruction de l'île après le passage du cyclone Chido en décembre. Bonsoir Célia Goetti.
Bonsoir.
Une loi faite d'exception au code de l'urbanisme, de l'environnement et même du code de la commande publique, Célia.
Oui, l'objectif de la loi est clair, enlever le maximum de délais d'attente pour reconstruire à Mayotte. 19 000 bâtiments et 105 km de routes sont endommagés ou détruits, selon les estimations du service d'urgence du programme européen Copernicus. Et construire prend du temps en suivant la loi française. Avant de détruire ou de poser des fondations, il faut par exemple une autorisation de la mairie ou du département. Le plan Mayotte doit permettre de le faire dès le dépôt de la demande, sans attendre l'autorisation. Autorisation qui pourrait d'ailleurs ne pas venir. La loi d'urgence prévoit que le silence de l'administration vaille l'acceptation. La liste complète des lois d'urbanisme qui pourront être ignorées sur le territoire mahorais pour les 2 prochaines années ne sera publiée qu'en avril. Il est juste noté que les lois de sécurité anti-incendie ou inondation ne sont pas visées. La question des obligations d'énergie renouvelable, par exemple, reste cependant en suspens. Si elles sont nécessaires pour faire vite, certaines dérogations inquiètent. La députée mahoraise Estelle Youssoufa souligne celle introduite par l'article 10 qui autorise l'expropriation pour cause d'utilité publique par ordonnance de l'État. Selon les législateurs, trouver les propriétaires de chaque terrain serait trop compliqué sur l'île. Le chapitre 4 de la loi, lui, crispe du côté des entreprises de construction mahoraises. Il liste plusieurs entorses au code de la commande publique. Pour les chantiers de moins de 2 millions d'euros, le maître d'œuvre n'aura plus besoin de faire d'appel d'offres publiques ni de choisir des entreprises différentes pour la conception et réalisation de son chantier. Une brèche de régulation qui favoriserait les grands groupes de construction, selon la Chambre de commerce. Alors qu'à Mayotte, une très grande majorité des entreprises de BTP ont moins de 10 salariés.
Célia Goetti. Les enseignants de Mayotte ont effectué leur rentrée ce matin dans un contexte difficile entre des établissements qui ne sont toujours pas remis en état et au moins un autre encore occupé par des sinistrés. La rentrée des élèves, prévue initialement le 13 janvier et plusieurs fois décalée, aura lieu à partir du 27 janvier, selon le ministère de l'Éducation, qui explique que les modalités d'accueil des élèves seront adaptées à chaque école. Pour garantir la continuité pédagogique, des systèmes de rotation des élèves dans les classes seront mis en place et des cours seront diffusée sur la chaîne Mayotte la Première. La rentrée des élèves risque de s'étendre sur plusieurs semaines, estime Dessy Bréban. Il est secrétaire académique du SNPDEN à Mayotte. C'est le principal syndicat des chefs d'établissement.
Vous avez des établissements qui pourront accueillir la semaine prochaine de manière échelonnée certainement les niveaux et la semaine suivante attaquer une rentrée normale selon les emplois du temps de début d'année. Et par contre, pour d'autres établissements, ce sera un peu plus complexe dans la mesure où davantage de salles ont été dégradées et finalement, on sera peut-être sur encore une, deux, voire plus de semaines sur une rentrée dégradée. demandé pour mettre en place la sécurisation, portail, clôture, etc. Et puis, mobiliser un maximum d'entreprises pour effectuer les travaux d'urgence, les réparations de plafond, avec toute la pluie, le vent, des toits se sont envolés, et des plafonds se sont effondrés. Il y aura aussi la problématique du mobilier, tables, chaises, et puis tout ce qui est numérique, ordinateur, vidéo, projecteur. Donc là aussi, notre rectorat se mobilise. Et puis, on jouera aussi peut-être la solidarité entre établissements. Peut-être que dans certains établissements, on accueillera un niveau d'un autre établissement le plus impacté, par exemple.
Propos recueillis par Hakim Kasmi. Le temps prévu demain, de la pluie l'après-midi dans l'ouest et sur les régions méditerranéennes, d'éclaircies au nord. Au lever du jour, il fera de moins 4 degrés en Normandie à 7 près de la Méditerranée. Les maximales seront en hausse, 4 à 9 sur la moitié nord, 8 à 15 au sud.